Vous écoutez France Culture.
Du grain à moudre jusqu'à 19h. Vous pouvez dès maintenant laisser vos commentaires à la page de l'émission. C'est sur franceculture.fr. Bonsoir à tous. Il représentera le 7e art africain. Le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako, réalisateur de Bamako, a appris jeudi dernier que son film Timbuktu, le chagrin des oiseaux, a été retenu pour figurer dans la sélection officielle du 60e Festival de Cannes. Un film témoignage tourné au début de l'année dans le désert de Mauritanie, où les acteurs sont originaires du Nord Mali et les figurants des réfugiés. Cinéaste de l'exil, Sissako souhaitait avec ce film remonter le fil de l'occupation djihadiste à Tombouctou, la ville aux 333 saints, capté 2 ans plus tard. À chaud, plus ou moins, car au Nord Mali, la crise n'est pas terminée. La situation au Nord Mali se dégrade, a même prévenu récemment Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. 15 mois après le lancement de l'opération Serval, le Nord Mali reste une zone hors de contrôle. Dans un état de guerre indécis, pour reprendre un scénario imaginé par Michel Galli l'an passé, c'est ce scénario qui semble parti pour durer. Le scénario optimiste d'une prochaine sortie de crise, espérée l'été dernier après les accord de Ouagadougou s'éloigne, quant à lui, avec des discussions entre les différents mouvements rebelles et les autorités maliennes qui ont certes repris, mais qui sont pour l'instant sans grandes avancées. Épaulée par la MINUSMA, la France, de son côté, a réduit sa présence à 1600 hommes, mais les opérations militaires se poursuivent. Une trentaine d'islamistes auraient été tués dans les 3 dernières semaines, selon RFI, dont un des chefs d'ACMI. Dans la nuit du 16 avril, ce sont cette fois 5 humanitaires maliens retenus en otage qui ont été libérés au cours d'une opération militaire française. Un premier ministre plus tard, Oumar Tatamli, ayant démissionné au début du mois, 7 mois après sa nomination seulement, l'objectif officiel pour son successeur, Moussa Mara, reste le même, redresser et réconcilier le Mali. Nord Mali, où en est-on? On en débat ce soir avec nos invités dans Du grain à moudre jusqu'à 19h. Et invité ce soir, Jean-François Bayard, tout d'abord, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, auteur entre autres de L'État en Afrique, la politique du ventre, c'était paru chez Fayard. À vos côtés, Michel Galli, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de géopolitique à l'Institut d'études des relations internationales, où vous avez dirigé l'ouvrage collectif La guerre au Mali, comprendre la crise au Sahel et au Sahara, enjeux et zones d'ombre. C'est un ouvrage publié l'an passé à La Découverte. Enfin, Pierre Boilet, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et directeur de l'Institut des mondes africains. Et à mes côtés jusqu'à 19h, Arnaud Contreras, journaliste, auteur du documentaire Abderrahmane Sissako, Nord Mali, le film des événements diffusé sur les docks tout à l'heure, hein, entre 17h et 18h. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous évoquez dans ce documentaire, vous citez ce réfugié, Enad, si j'ai bien entendu son nom, un ancien du MNLA, figurant dans le film. Il vous dit à un moment, au cours d'une conversation au coin du feu, vous racontez qu'il vous pose des questions, plein de questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Qu'est-ce que c'était ces questions ?
Les questions, il y avait certaines questions sur le retour. Quand est-ce qu'on va pouvoir revenir au nord du Mali ? Quand est-ce qu'on va pouvoir de nouveau avoir une vie normale, notre vie d'éleveur ? C'était des questions sur l'insécurité alimentaire. Assez étonnamment, on parle beaucoup ici d'insécurité, de terrorisme. Mais dans les conversations, on revenait très fréquemment l'insécurité alimentaire. La hausse des prix à Gao, ils étaient très connectés encore, malgré leur présence dans les camps de réfugiés du sud mauritanien. Ils étaient très connectés au quotidien du nord du Mali, des grandes villes de Gao, de Tombouctou, de Kidal. Donc les questions des NAD portaient énormément sur le retour, sur la position de la France vis-à-vis de leur territoire. Certains l'appelaient Azawad, certains l'appelaient Nord du Mali, certains l'appelaient tout simplement Mali. Dans ce documentaire, il y a aussi bien des Sangoy, des Bambara, des Tamashek, des Berabiche, les différentes populations présentes au nord du Mali. Et voilà, il me parlait beaucoup de son insécurité. On ne m'a jamais autant posé de questions que lors de la réalisation de ce documentaire. Tout le monde me posait des questions comme si, en tant que Français, j'avais les réponses aux problèmes du nord du Mali.
Vous ne les aviez pas toutes, mais nos invités les auront peut-être, puisqu'ils sont français aussi. On va peut-être juste rappeler, notamment pour vous trois qui étiez en route pour les studios de France Culture au moment de la diffusion de ce documentaire, qui ne l'avaient peut-être pas entendu, et pour les auditeurs de France Culture qui arriveraient seulement maintenant, ce que vous avez tourné. Vous étiez donc sur le tournage de ce film d'Abderrahmane Sissako. C'était en Mauritanie, à la frontière avec le Mali, parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de tourner au Nord Mali et notamment à Tombouctou, comme l'aurait souhaité le cinéaste. Et la particularité de ce tournage, c'est que ce n'était pas du tout un lieu clos, un tournage bunkerisé, mais qu'au contraire, des habitants de la région, et notamment des réfugiés maliens en Mauritanie, participaient au tournage, pouvaient venir regarder le film se tourner. Et il y avait quand même des conditions qui étaient assez particulières. Alors, en quelques mots.
Le tournage était un petit peu bunkérisé quand même. Il y avait quand même les forces mauritaniennes tout autour du village et un certain nombre de réfugiés du nord du Mali ont été sélectionnés pour participer au tournage. Ce qui était très beau lors du tournage, c'est la parole qu'il pouvait y avoir entre personnes du sud, comédiens du sud du Mali et réfugiés du nord du Mali. Personne ne se disait à quel mouvement avait-il appartenu, mais il se parlait. Il y avait vraiment une parole autour du Mali et du foot.
Comment vit-on aujourd'hui à Tombouctou, à Gao, à Kidal, en fait, hors des sentiers battus? Est-ce que les populations civiles tiennent le coup, ont le sentiment d'être un petit peu passées à autre chose, ou est-ce qu'au contraire, vous les ressentez dans les échos que vous pouvez en avoir, épuisés après ces deux années de crise, Pierre Boilet?
Forcément épuisé. On est dans une situation où quasiment personne n'est encore rentré. Les camps de réfugiés sont pleins de gens qui ont des grosses difficultés à vivre. Il y a des gens qui sont perdus, on en parlait tout à l'heure, dans le nord, parce qu'ils ont plus ou moins été en lien avec le Moujao ou avec ACMI, et puis qu'ils ont peur d'être tués ou indexés, comme on dit là-bas. Bon, tout le monde est sur le qui-vive, dans l'attente. On ne sait pas très bien comment les choses vont se passer, parce que pour le moment, les choses sont bloquées. Et donc, effectivement, la situation n'est pas très bonne.
Mais les habitants peuvent circuler dans la région, dans le Nord Mali, sans restriction. Michel Galli, Pierre Boilet.
Oui, bon,
vous les Français qui savez tout.
Il y a un moment que je n'ai pas été là-bas. J'ai écouté le documentaire tout à l'heure, c'était très intéressant. J'en ai retenu que les forces armées mauritaniennes surveillaient les arcs et les flèches en cas que ce soit trop dangereux. Et par ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est ce côté mouvant, évidemment. Bon, c'est un truisme, chacun sait que c'est un lieu de passage, hein, ce désert. Mais aussi cette mouvance en les appartenances, d'abord à l'intérieur de chaque famille, et même pour les individus. Hein, et à mon avis, peut-être on y reviendra, quand on croyait avoir tué les terroristes, ce qui, à mon avis, est une erreur d'analyse, les termes sont inadéquats. Et à Kidal en particulier, on voit bien que les appartenances entre, par exemple, le MNLA, les différents mouvements des djihadistes, il y a quand même un flou, en tout cas des passages des uns aux autres, qui rendent la situation beaucoup plus complexe, les étiquettes et en particulier l'attribution à tel ou tel mouvement de tel ou tel territoire. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Le gouvernement de Bamako compte dans ses rangs un ministre de la Réconciliation nationale. En tout cas, c'était le cas dans le gouvernement d'Oumar Tatamli. Il me semble que c'est aussi le cas hein, dans celui de Moussa Mara. Est-ce que, loin des jeux politiciens ou des questions politiques, on va dire, la réconciliation, est-ce que c'est un objectif aussi que Arnaud Contreras, que les peuples, que les populations que vous avez pu rencontrer appellent aussi de leurs voeux? Est-ce que ce mot réconciliation revient dans les discussions?
Non, ce n'est pas un mot que j'ai entendu. Je suis désolé de vous décevoir. C'est pas un mot que j'ai entendu. J'ai plus entendu des mots comme survie, des mots comme qu'est-ce que le Mali. À chaque fois, les gens me rappelaient qu'est-ce que le Mali. Vous en parlez souvent, vous parlez souvent du Mali comme un pays européen, mais il faut se figurer aussi qu'est-ce que le Mali, qu'est-ce que le nord du Mali. C'est quand même, on est dans une zone où économiquement très faible, on est dans une zone d'insécurité alimentaire, on est dans une zone qui est, d'un point de vue ethnique, qui est très diverse, où il y a une diversité ethnique qui n'est pas évidente, hein, qui peut bien se passer, mais qui n'est pas évidente. Donc, je n'ai pas entendu le mot réconciliation. J'ai plus entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de questions. On n'en est pas encore à la réconciliation.
Pierre Boilet ?
Oui, on n'en est pas du tout à la réconciliation, puisqu'on n'a même pas encore réglé le problème du tout. En fait, ce qu'il faut quand même dire et redire en permanence, c'est qu'actuellement, on est dans la même situation plus ou moins que quand l'armée française a fini de réoccuper Gao, Tombouctou et Kidal. On est exactement dans la même situation parce qu'il y a toujours des djihadistes, et vous venez de dire qu'on en a tué encore 30, chiffre sous réserve, mais c'est vrai qu'on en tue toujours et il y en a toujours qui reviennent, donc le problème n'est pas réglé à ce niveau-là, et le problème n'est surtout pas du tout réglé en termes de négociations entre les mouvements armés que sont le mouvement arabe de la Zawad, le MAA, le MNLA, le mouvement national de libération de la Zawad et le HCUA, puisque rien n'a vraiment commencé. Alors il y a quelques petits points qui peuvent permettre d'espérer. Effectivement, il y a un ministre de la Réconciliation nationale qui est dans le nouveau gouvernement, qui se trouve être un ancien leader de la rébellion de 90, c'est Zahabi, donc, qui à l'époque était le chef du front islamique et arabe de la Zawad. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques gars qui ont été libérés, mais enfin, on est pas du tout dans l'esprit des accords de Ouaga qui ont été signés pourtant maintenant depuis très longtemps puisque c'était le 18 juin dernier qui prévoyait que les négociations devaient commencer donc en novembre dernier. Bon, vous voyez, il y a énormément de retard et on a un sentiment de la part du pouvoir de Bamako d'atermoiement, on ne sait pas très bien. Ibeka manifestement n'a pas l'air de vouloir forcer non plus son opinion publique qui elle ne veut pas apparemment négocier. Bon, voilà, on est dans cette situation, ni guerre ni paix. Il y a la MINUSMA qui est là, avec des Chinois qui arrivent, mais qui est très loin des 11 000 ou 12 000 hommes qui étaient prévus au départ, et qui est considéré par les uns comme l'armée de Bamako, comme par les autres comme une force qui sert à rien. Bon, voilà. C'est assez déplorable, parce que tant que ce problème politique ne sera pas réglé, ça n'éclaircira pas le problème des djihadistes non plus, et les deux sont liés.
Jean-François Bayard, c'est vrai que 10 mois après les accords de Ouagadougou, pour l'instant, les discussions entre les groupes rebelles, les autorités maliennes piétinent. Pourquoi ? On a l'impression que chacun se renvoie un peu la balle, estime que les préalables nécessaires n'ont pas été remplis. C'est-à-dire d'un côté, le désarmement des groupes rebelles, de l'autre, un début de négociation sur un éventuel statut d'autonomie sur ces territoires.
Je pense qu'il faut sortir des mauvaises valises. Réconciliation, réfugiés, derrière. Il y a une profondeur événementielle, une profondeur historique et sociale qu'il faut avoir à l'esprit. Les réfugiés, par exemple, ils ne sont pas comme ça tombés du ciel. Il y a commencé à avoir des réfugiés, si on prend une période relativement courte, à partir de 2009-2010, lorsque l'armée française et mauritanienne, sans l'aval du pouvoir de Bamako, l'ancien président ATT, est intervenue, a procédé à des bombardements et a commencé à engendrer des flux de réfugiés. Ensuite, il y a eu la calamiteuse intervention en Libye, amorcée par la France, qui d'une part, on le sait, n'a rien résolu en Libye et qui ensuite a engendré toute une série de problèmes dans les pays du Sahel et notamment au Mali. Hein. Donc les réfugiés, ils sont greffés, si vous voulez, sur des processus historiques, politiques et sociaux importants. La réconciliation, c'est pareil. D'une part, il y a cette tâche de Sisyphe de réinventer ou d'inventer une forme d'État malien qui corresponde à l'extraordinaire complexité sociale de ce pays, et je préfère dire sociale qu'ethnique, et je pense que mes confrères seront d'accord avec moi. Il y a également une histoire de cette formation de l'État malien, et à l'époque même de la colonisation, il y avait un affrontement entre l'Algérie, l'armée française d'Algérie, et l'armée française du Soudan, du Sud-Soudan de Bamako, c'est pour aller vite, qui a failli se régler dans le sang au début du XXe siècle. Donc la morphologie même de ce territoire malien a toujours posé problème politique, et il y a cette exigence d'inventer une nouvelle forme étatique qui tienne compte de l'hétérogénéité historique, sociale, humaine du pays, et également de l'impératif de mobilité dont une bonne part des peuples, disons pour aller vite, du nord Mali, pas simplement les Touaregs mais également les Peuls, sont porteurs.
Bon. Écoutez, c'est insoluble comme problème.
Non, c'est pas insoluble, mais ce sont des processus politiques longs dont les Maliens Maliens, on la maîtrise. Et on ne voit pas très bien pourquoi on attendrait des Maliens de faire mieux et plus vite que ce que la plupart des peuples européens ont fait dans leur douloureux processus de formation de l'État. Donc c'est un processus de formation de l'État. C'est un processus complexe où il y a effectivement beaucoup de passion, mais il y a également beaucoup d'enjeux. Et là aussi, derrière le mot sympathique de réconciliation, il faut voir qu'il y a des conflits. Il y a des conflits qui sont par exemple des conflits agraires, des conflits d'usage des pâturages, d'usage des droits d'eau, qui peuvent être des conflits immobiliers, qui sont également des conflits bancaires, par exemple, qui sont des conflits en termes d'allocation des ressources. Par exemple, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de route goudronnée entre le fleuve Niger et Kidal? Donc derrière, vous avez des processus de prise de décision politique, vous avez des enjeux économiques, et vous avez la question foncière, la question agraire, qui est un aspect absolument majeur. Et puis il y a également ce que l'on appelle cette crise du Mali, et quand même le brillant résultat, en partie, c'est le brillant résultat de l'échec des Maliens eux-mêmes certainement, mais c'est aussi le brillant résultat de toute une série de politiques publiques que la France, avec les autres pays occidentaux, ont menées depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. La faiblesse de l'État malien, c'est le résultat de la politique de libéralisation économique de l'ajustement structurel, c'est la politique d'endiguement de l'immigration qui constitue pourtant la principale ressource économique du pays, etc., etc. Donc nous avons une part de responsabilité énorme.
Je crois que Michel Galli, sur la question de la légitimité ou pas de l'intervention française au Mali en janvier 2013, en tout cas sur le choix qui a été fait, vous soutiendra plutôt Jean-François Bayard. Je voyais en revanche que Pierre Boilet souhaitait réagir. Alors, je ne sais pas si c'est sur le mot de légitimité ou pas. Est-ce que je peux juste vous faire entendre ou réécouter, Pierre Boilet, ce que disait le 31 janvier 2013 Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense?
Dès que les forces africaines en cours de constitution, ce qu'on appelle la MISMA, seront mises en place et auront commencé à se déployer, nous nous retirerons. Nous n'avons pas mission, les forces françaises opérationnelles n'ont pas mission à rester au Mali. Ils avaient mission de restaurer l'intégrité d'un territoire, d'éviter la plantation d'un sanctuaire terroriste qui nous aurait remis en cause. La souveraineté du Mali, c'est notre propre sécurité en France.
Alors, les forces françaises n'avaient peut-être pas pour mission de rester au Mali, mais elles y sont encore aujourd'hui. Et là encore, ça semble parti.
Elles y sont encore. Et vous auriez pu aussi trouver des extraits des émissions précédentes où chacun d'entre nous avait pu dire que non, certainement, on allait rester beaucoup plus longtemps que prévu. Bon, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-François Bayard. Mais il faut rajouter en plus les processus historiques très longs. On parle de réconciliation, mais effectivement, il n'y a que nous qui en parlons. On n'en parle pas franchement au Mali, parce que la réconciliation, ça serait par exemple aussi que l'État reconnaisse que son armée a pu tuer un certain nombre de civils depuis 63-64. Bon, et ça, c'est pas encore à l'ordre du jour. Et n'est pas à l'ordre du jour non plus encore, ce qui est quand même assez étonnant, parce que vous évoquiez tout à l'heure le désarmement. Bon, les accords de Ouaga ont été signés en disant qu'on va réfléchir à la façon dont on va désarmer. Bon, et maintenant, le gouvernement malien dit qu'on ne négociera qu'avec des groupes désarmés. Il y a un problème dès le départ, là. Donc, effectivement, je pense qu'il va falloir beaucoup de choses pour avancer un peu plus rapidement maintenant. Et comme vous l'avez vu, M. Le Drian est très d'accord avec nous, puisqu'il l'a dit récemment.
Puisqu'on est sur cette question de l'intervention française, avec vous, Michel Galli, également dans cet ouvrage collectif « La guerre au Mali », vous évoquez les raisons pour lesquelles la France y a envoyé son armée, parmi lesquelles conserver une aire d'influence en Afrique, quitte à mettre sous tutelle les États. Si Paris a depuis choisi de réduire un peu la voilure, elle a néanmoins décidé d'y conserver un contingent de 1600 hommes. Est-ce que les motivations aujourd'hui ont changé d'après vous ?
Oui, c'est des contingents, comme on sait, à géométrie variable. C'est 1600 hommes aujourd'hui, ça peut être 2 ou 3000 si le besoin s'en fait sentir. C'est l'ensemble des forces qui viennent d'être réorganisées en Afrique subsaharienne. Et oui, c'est une question, effectivement, à mon sens, d'influence globale en Afrique subsaharienne plutôt que d'intérêt économique, comme soutiennent certains. Certains, je ne dirais pas des journalistes, mais enfin, certains ont confondu le Mali et le Niger au début du conflit parce qu'ils n'étaient pas très renseignés, que l'uranium était plutôt du côté d'Arlit au Niger plutôt qu'au nord Mali. Alors on peut dire, c'est pas vous, c'est pas moi, et on peut dire effectivement qu'il y a des traces d'uranium et de pétrole, mais ce n'est pas le but premier. Alors vous me lancez sur la question de la légitimité, effectivement, il est certain qu'un pouvoir présidentiel très faible à Bamako, qu'on a cherché le jour du début janvier 2013 pour l'intervention Serval. C'était pas lui qui avait la possibilité, en tout cas la légitimité, pour appeler l'armée française, qui, comme dans beaucoup de pays, s'est installée sans qu'on le lui demande et qui continue d'ailleurs. Et donc, à mon avis...
On ne lui a pas demandé de rester ?
De rester, oui, si vous voulez. Enfin, en ce moment, il y a des tensions qu'il ne faut pas se cacher entre l'Élysée, le ministère de la Défense et le pouvoir élu et très bien élu, puisque Ibrahim Boubacar Keïta a été élu à plus de 80%, notamment sur la question, bon, je ne vais pas parler du problème Touareg à la place Boalé, mais enfin, la question de Kidal, de cette enclave, cette cité-État, hein, comme je dis, et qui, d'ailleurs, qu'une partie du problème Touareg qui concerne d'autres pays, et qui braque l'opinion sudiste de Bamako et d'ensemble la classe politique, hein, qui ne veut pas, au fond, de cette cité-État préservée, au fond, par l'armée française. C'est ce qu'on lui reproche, en tout cas. Et des complicités, d'ailleurs, on reproche aussi médiatiques, hein, de légitimation du mouvement Touareg. Donc, il y a, en dehors des problèmes sociaux qu'évoquait Jean-François Bayard, il y a des problèmes, quand même, de nationalité, il y a des problèmes politiques extrêmement aigus. Et alors, là où je suis complètement d'accord, il y a un problème
d'échec du modèle étatique. Mais la France a repris un peu de distance avec le mouvement Touareg aussi, non ?
Oui, mais enfin, en même temps, ça a été, comme les Tchadiens, les supplétifs au moment de la conquête de la Drar des Ifora. Il y a eu une sorte d'alliance entre l'armée française et les mouvements Touareg. Et c'est la présence française, en tout cas, qui cautionne quelque part cette sorte d'autonomie de Kidal. Et l'échec de l'analyse, je le disais, c'est de prendre des mouvements qui ont une base sociale, voire une base religieuse, pour des mouvements terroristes isolés. Quand François Hollande disait « on va détruire quelques centaines de djihadistes et le problème est réglé », je ne sais pas s'il y croyait lui-même, mais on voit bien, comme le disait Pierre Boilet, qu'on est parti pour des années, peut-être pour une dizaine d'années, et dans beaucoup d'autres pays, puisque la catastrophique intervention en Libye a dispersé les mouvements Touareg, les mouvements aussi djihadistes. Après l'intervention au Mali, c'est la même chose. Il y a une dispersion dans les pays alentours et une bande, au fond, ouest-est, depuis le Sahara occidental jusqu'à la Somalie, en passant par le nord du Nigeria, du nord du Mali, qui est concernée.
Pierre Boilet, on en est où, effectivement, de cette guerre au terrorisme international que la France souhaitait mener sur terre malienne?
On en est au même point aussi, c'est pareil.
Il y a eu quelques succès quand même au départ, hein, en 2013, sur le premier semestre 2013, dans cette intervention française, avec des sanctuaires, des bastions tenus par des djihadistes qui ont été libérés. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces groupes se sont aussi quelque part disséminés, répartis un peu partout dans la région.
Oui, parce que quand finalement donc, les mouvements d'indépendance ou d'autonomie donc on conquit les villes, ces mouvements se sont fait éjecter par les mouvements djihadistes. Et effectivement, donc la reconquête de l'armée française, ce qu'on a appelé la reconquête de l'armée française, ça a été essentiellement de reprendre le contrôle des villes. Bon. Mais ensuite, on a bien vu dans la bataille d'Ametetta, enfin on a dit beaucoup de noms, en tout cas celle qui s'est passée à l'est de Kidal, que déjà les gens étaient complètement dispersés dans le paysage, et qu'il fallait, petit groupe par petit groupe, arriver donc à les casser, et puis donc à les faire disparaître. Mais à chaque fois, on trouvait des nouvelles caches, et on voyait des nouvelles personnes qui arrivaient, et puis on avait des attentats kamikazes, il y en a eu quand même pas mal. Donc en réalité, on est loin, très loin, hein, d'avoir éradiqué donc ce mouvement. Et je rebondis aussi sur ce qui a été dit. Beaucoup des gens, par exemple du Moujao, peut-être moins d'Acmi, mais du Moujao dans le Sardine, sont des gens du lieu, enfin du Mali, hein. Et donc éradiquer quoi? C'est vraiment, on tue des familles entières, on fait quoi? Bon, donc ce sont des opinions, des gens qui prennent des armes, qui, comme ça a été dit aussi, peuvent nomadiser d'un mouvement éventuellement indépendantiste à éventuellement un autre mouvement un peu plus religieux, puis qui n'ont pas forcément d'ailleurs d'opinions salafistes bien arrêtées. Donc voilà, il y a une grande mouvance et on ne pourra pas éradiquer cette mouvance comme ça. D'autant plus que je pense qu'alors actuellement, j'ai entendu dire que l'armée parlait de BSS, parce que les armées aiment bien les acronymes, donc c'est la bande sahélo-sahélienne. Donc dans la BSS, c'est formidable parce qu'on a des points d'appui maintenant. On en avait déjà au Tchad, on en a maintenant à Niamey, à Ouaga, et on sait que depuis 61, depuis que l'armée française a été priée de quitter le sol malien, que beaucoup de militaires rêvaient d'une base du côté de Tessalit, qui avait été déjà engagée par l'armée française avant la fin de la colonisation, et qu'on réoccupe maintenant au grand dam d'ailleurs des Algériens.
Arnaud Contreras, sur ce que vous avez pu voir, entendre?
Ce que j'ai pu entendre, c'est en effet qu'il y a une grande mobilité d'un mouvement à l'autre, hormis quelques petits noyaux durs de personnes qui sont vraiment impliquées, soit côté djihad, soit côté ce qu'on appelle soi-disant mouvement soi-disant laïque. En revanche, il y a une dynamique de journalier. C'est-à-dire, chez ACMI, cette semaine, on va toucher 100 000 CFA. Chez Hansardine, cette semaine, 200 000 CFA. Bon, même si les chiffres sont imaginaires, ou, c'est très difficile d'avoir une vision économique de ce conflit. Il y a ça. Après, je veux juste rebondir sur ce que disait M. Ghali, sur les enjeux de la guerre en Libye. Certes, l'État libyen a disparu, mais c'est aussi un interlocuteur essentiel qui a disparu dans la région, ce qu'on appelle aujourd'hui la région saharo-sahélienne. La Libye a toujours été, depuis les années 60, la Libye a été un interlocuteur privilégié dans la résolution des conflits. Cet interlocuteur a disparu. Aujourd'hui, on assiste à un interlocuteur algérien dont on ne sait rien. On ne sait absolument pas quelles sont les différentes négociations qui peuvent être entretenues en Algérie. On voit apparaître le Maroc, qui a aussi ce problème avec le Sahara occidental qui dure depuis de nombreuses années, qui commence un petit peu à arriver dans le jeu, on va dire le jeu stratégique.
Ce qui crée aussi du coup des tensions entre le Maroc et l'Algérie.
On voit que la résolution de la CEDEAO a été complètement mise de côté. On n'en entend plus parler, et pourtant c'est une résolution internationale de la communauté africaine. Enfin, voilà. Donc on ne sait plus qui est l'interlocuteur aujourd'hui pour la résolution du conflit, voire pour les conflits à venir aussi. On ne sait pas qui va être l'homme fort ou le pays fort de la région.
Alors Arnaud Contreras, auteur d'un documentaire qui vient d'être diffusé sur France Culture sur le Nord Mali, le film des événements. Il a suivi le tournage d'un film d'Abderrahmane Sissako. À mes côtés également, Michel Ghali, géopolitologue, Pierre Boilet, historien, et Jean-François Bayard, politiste. Vous souhaitiez intervenir, réagir à ce qu'évoquaient Pierre Boilet et Arnaud Contreras à l'instant.
D'une part, nous auparavant souligner l'importance du facteur marocain. D'abord parce que c'est un facteur historique de très longue durée. Le Gagao a été une province de l'empire chérifien au XVIe siècle, bon, quelques décennies, mais il est subsisté jusqu'à présent des familles maliennes chérifiennes, maliennes marocaines, et donc il y a une historicité là de très longue durée. Et puis aujourd'hui, le Maroc a une politique subsaharienne très décidée, qui est à la fois une politique post-impérial ou néo-impérial, une politique d'étrangers proches, comme on dirait sous d'autres cieux, et qui est une politique diplomatique très liée à la question du Sahara occidental et au conflit avec l'Algérie, mais qui est également une stratégie économique avec de forts investissements, par exemple de l'office chérifien des phosphates, des banques, de groupes immobiliers très liés au palais, etc. etc. Donc il y a le facteur marocain, il est extrêmement important, même s'il n'est pas très bien décelé depuis la France. Mais je voulais revenir sur l'intervention française, parce que bon, on peut effectivement gloser assez longuement pour savoir s'il était légitime ou pas légitime. Quoi qu'il en soit, elle a eu lieu et elle était sans doute inévitable compte tenu des événements au début, enfin en janvier 2013. Bon. Je crois qu'il y a une économie à la fois sémantique et stratégique de cette intervention, et qu'il ne faut absolument pas diluer dans des considérations classiques. Là aussi, c'est un mot valise sur la France-Afrique, etc. Quand François Hollande, par exemple, parlait de lutte contre le terrorisme, il s'agissait surtout de ne pas prononcer le nom islam, pour effectivement ne pas tomber dans le reproche et dans le mécanisme de la croisade que n'avaient pas entièrement échappé les États-Unis après le 11 septembre. Bon. Mais d'un autre côté, au moment même où cette terminologie était développée, la commission du livre blanc sur la défense nationale, sur la défense et la sécurité nationale, tordait le cou à la notion d'arc de crise calamiteuse qu'avait introduite le précédent livre blanc sous Nicolas Sarkozy, et qui prétendait que de l'Afghanistan à la Mauritanie, même combat, et qui donnait une espèce de rente d'éminence idéologique à ACMI qui était catastrophique politiquement.
Vous en faisiez partie de cette commission?
J'en faisais partie, donc je parle en connaissance de cause. Et le retrait de cette notion d'arc de crise a été une véritable victoire idéologique contre les néoconservateurs français. Donc il est vrai que François Hollande parle de lutte contre le terrorisme pour ne pas parler de d'islam, mais d'un autre côté, il a entériné l'abandon de cette notion catastrophique d'arc de crise, et par exemple, ce thème du Seylistan. Une autre remarque importante, c'est que au début, la commission du Livre Blanc n'était pas très favorable aux intérêts de l'armée de terre. Hein. C'était dans un contexte de restrictions budgétaires que vous connaissez. Au fond, les décideurs avaient manifestement les yeux de chimène pour la marine, hein, la sacro-sainte flotte de sous-marins atomiques, et pour l'armée de l'air. Et dans un sens, la crise malienne a été une divine surprise pour ces braves militaires terriens qui se faisaient bizuter depuis 3 mois et qui tout d'un coup ont pu dire vous voyez, c'est pas simplement avec des rafales ou avec des sous-marins qu'on va résoudre une crise qui concerne directement notre sécurité nationale, c'est bel et bien avec ce dispositif, ces prépositionnements en Afrique subsaharienne. Donc là, il y a eu une espèce, si vous voulez, de conflit ou d'économie interne, d'économie politique interne aux armées françaises qu'il faut resituer pour bien comprendre certains choix qui ont été faits et certains débats qui ont eu lieu.
Alors à 18h50, je reviens à cette question. Normalie, où en est-on? On a évoqué depuis le début de l'émission ces négociations, ces discussions qui ont repris, mais qui restent au point mort en termes de résultats entre les groupes rebelles et les autorités maliennes. On a évoqué ce qui était un peu en jeu dans ces discussions et les objectifs et les conditions qui avaient été posées. Vous évoquiez tout à l'heure, Pierre Boilel, l'enlisement un peu de ces discussions, le point pourrissement comme une presque stratégie, peut-être de la part de Bamako. Finalement, à qui profite cette situation de pourrissement, d'enlisement?
D'abord, je préciserai que les discussions n'ont pas repris. Il y a eu
des ateliers depuis février.
Oui, des ateliers qui étaient
boudés par une partie des
grandes messes, des ateliers auxquels ne participaient pas justement les mouvements qui étaient concernés. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est pour ça que les choses se compliquent, c'est que il y a des dissidents aussi des mouvements armés qui se rapprochent de Bamako et qui sont donc considérés par Bamako comme des interlocuteurs à part entière, mais qui n'en sont pas puisqu'ils sont décriés ou finalement d'ailleurs souvent évincés carrément des mouvements. Bon. Alors, à qui profite cet enlisement? Moi, je pense que ça profite vraiment à personne. Hein. D'abord, le premier problème, c'est qu'effectivement, je pense que Ibrahim Boubacar Keïta, quelle que soit sa pensée, a du mal à aller contre son opinion publique. Il faut voir qu'il y a un fossé qui s'est creusé terriblement pendant ces dernières années entre le Nord et le Sud, et que l'idée de négocier avec des mouvements armés qui ont, pour les uns au Sud, non seulement cassé le pays en deux, mais aussi ouvert la porte aux salafistes. Bon. C'est pas possible, voilà. Bon, donc c'est pas facile d'aller contre cette opinion publique, mais en attendant, si effectivement les négociations ne se font pas, si, comme l'évoquait Jean-François Bayard, il n'y a pas une réorganisation politique d'un État qui est calqué sur l'État centralisé jacobin français de façon absurde, puisqu'il y a tellement de gens différents, et ben voilà, on se retrouve dans une situation où on n'arrivera rien à faire au Sud, on n'arrivera toujours pas non plus à contrôler le Nord n'arrivera pas à se développer, puisque bon, donc personne n'y gagne. Hein. Donc je voudrais vraiment beaucoup insister sur le fait qu'il est important pour tous, au Nord comme au Sud, et quelle que soit l'issue des négociations ou des discussions, que ces choses commencent, hein, que ces négociations commencent pour pouvoir arriver à quelque chose qui puisse aller en faveur du Mali.
Une politique indécise, Bamako qui est accusé de camper sur ses positions, mais qui ne veut pas se mettre à dos son opinion, nous dit également Pierre Boilet. Michel Galli, qu'en est-il du côté, cette fois-ci, de la rébellion? Quel intérêt, quelle stratégie, à quoi ajoutons? Est-ce qu'il y a d'abord une revendication coordonnée entre les différents groupes, entre les différents mouvements dissidents du Nord Mali, ou est-ce que c'est une alliance de circonstances quand il faut, mais au fond, pas de revendication commune?
Oui, c'est plutôt, à mon avis, votre deuxième hypothèse. Ça fait partie de ce qu'on appelle classiquement un peu la segmentarité touareg. Vous voyez bien ces groupes qui éclatent, qui fusionnent. C'est tout à fait vrai, d'ailleurs, pour les islamistes aussi. Je voudrais dire simplement que, puisqu'on a fait le tour des capitales régionales, il ne faut pas oublier le Burkina Faso, avec Blaise Compaoré, qui voulait peut-être le grand faiseur de paix, et qui a été le grand boute-feu de plusieurs conflits depuis une vingtaine d'années. Et il semble que l'ancien ministre à la Réconciliation nationale, Cheikh Oumar Diarra, qui était très proche d'Ibeka, ait plutôt misé de ce côté-là, hein, tandis que le nouveau, effectivement, se tourne plutôt, comme on l'a dit, vers l'Algérie. Alors, il y a ce jeu complexe, et puis il y a la France qui intervient, qui propose des mots-valises, comme on a dit, comme celui des réconciliations, et qui fait des pressions tellement fortes qu'elle se transforme en ce moment en campagne médiatique à propos d'affaires de droit commun, comme Michel Thomy. Il y a eu des parutions d'articles un peu inquiétants dans Le Monde, et qui font que, dans les chefs d'État africains concernés, c'est d'Ibeka qu'on parle. Et dans cette sorte de rapport de force interne franco-malien, il y a aussi, je pense qu'on l'évoque dans notre ouvrage, cette sorte de prise de pouvoir du ministère de la Défense, ou plutôt de réseaux militaro-coloniaux, si on veut bien dire, qui sont autour du président et qui poussent à des interventions successives accélérées. Libye, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, de sorte que l'opinion publique africaine, on le voit dans les réseaux sociaux, s'insurge contre cet interventionnisme à répétition. Je pense qu'il faudrait quitter ce point de vue franco-français, voire interne à nos institutions, pour se mettre de l'autre côté. Alors même avec les meilleures intentions du monde, on a des corps expéditionnaires militaires engagés sur de nombreux terrains. D'ailleurs, c'est à la limite de nos capacités. Et c'est de plus en plus rejeté par les opinions publiques. Donc je pense qu'il faudra de plus en plus tenir compte du fait que si on peut gagner des batailles, on peut perdre celle de l'opinion.
On parlait, Jean-François Bayard, des diplomaties régionales. Si on va même un petit peu au-delà, on a assisté ces derniers temps à un ballet diplomatique avec des mouvements rebelles qui ont été reçus à Moscou, reçus à Rome. Est-ce qu'ils ont intérêt à internationaliser ce conflit ou son règlement ?
Au Mali, comme jadis au Tchad, dans les années 70, 80, etc., ou en Casamance, la résolution des conflits et des négociations sont une activité économique à part entière qui est éminemment lucrative pour les mouvements qui s'y livrent. Alors, comme on joue aujourd'hui dans un marché global, comme on dit, pourquoi cantonner les négociations à quelques capitales régionales et ne pas aller dans des villes éventuellement plus agréable sur tel ou tel plan dans l'ensemble du monde. Hein. Je crois qu'il y a quand même aussi une économie, pour garder le terme, une économie politique de la négociation et de la résolution des conflits qui fait partie des charmes particuliers de la guerre au sud du Sahara.
Alors une économie politique plus qu'une influence diplomatique ou stratégique déterminante à vous entendre dans ces voyages.
Je pense que si les acteurs, fussent-ils émergents du système international, pensent qu'ils ont les clés de la résolution du conflit malien, on peut leur souhaiter bien du plaisir. Et un pays avec plus d'atouts que ceux-ci, comme la France, s'y sont quand même cassé les dents. Non, je pense qu'il faut vraiment remettre l'accent sur l'historicité propre de l'État malien, de sa formation, sur des questions sociales et économiques qui ont leur propre historicité, et également sur la question de l'islam, qui est un autre mot-valise. Hein, parce que l'islam, si vous voulez, c'est la solution pour dire reprendre ironiquement le slogan de certains islamistes. Bon, alors effectivement, et vous avez ces groupes djihadistes, dont le rapport à la religion est d'ailleurs pour le moins compliqué et mobile, comme l'a indiqué Pierre Boilet, mais vous avez également tous les réseaux confrériques. Et vous avez un salafisme qui est un salafisme quiétiste, qui n'est pas engagé dans le djihad. Et vous avez les pétrodollars des pétromonarchies arabes qui elles-mêmes sont en dissension, puisque l'Arabie saoudite n'a pas du tout la même diplomatie que le Qatar.
On a commencé avec le sort des populations civiles. J'aimerais bien qu'on termine avec la question notamment des réfugiés. Pierre Boilet, sur le tournage de Timbuktu, le chagrin des oiseaux, Abderrahmane Sissako a travaillé avec des réfugiés, notamment du camp mauritanien de Béra. Est-ce qu'on mesure déjà les conséquences humanitaires de ce conflit ? Et est-ce qu'une fois encore, la question des réfugiés va être traitée complètement à la marge ? Ou est-ce qu'on peut espérer qu'elle revienne ou qu'elle vienne un jour au cœur des discussions ?
D'abord, il est extrêmement difficile de pouvoir mesurer actuellement, sinon de façon extrêmement globale, ce qu'il en est effectivement des problèmes des réfugiés. Mais c'est facile de comprendre que ça pose déjà des problèmes de gens qui vont être déracinés pendant des mois, qui ont perdu leurs troupeaux, si jamais ils sont éleveurs, qui ont perdu leurs activités économiques, qui ont en plus été pointés du doigt parce qu'ils appartenaient à telle ou telle communauté. Bon, tout ça ça, ça va être extrêmement difficile à reprendre. Hein. Bon. Je voudrais aussi quand même dire quelque chose. Je ne pense pas que les gens qui se promènent à Moscou, etc., ne le font que pour habiter dans des chambres d'hôtel plus ou moins jolies. Hein. Je pense qu'il y a une volonté de la part des mouvements d'arriver à, justement, un certain nombre de choses qui ont déjà été signées, c'est-à-dire le cantonnement des combattants qui n'est toujours pas fait, et puis commencer des négociations réellement, et pour ça avoir le maximum de garanties internationales, parce que tout simplement le face-à-face Mali-mouvement ne peut pas fonctionner très clairement. Quoi.
Merci beaucoup à tous les trois, Jean-François Bayard, Michel Galli et Pierre Boilet. Merci à vous, Arnaud Contreras. Je rappelle que votre doc, Abderrahman Sissako, Normalie, le film des événements, est podcastable, téléchargeable, pardon, sur franceculture.fr à la page de Sur les docs. Du grain à moudre, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc et Fanny Richet, réalisée ce soir par Michel-Ange Vinti, assistée de Théo Gomard à la technique. On se retrouve demain à 18h20 pour un nouveau grain à moudre. Moudre avec un débat autour de la réforme de l'État. D'ici là, très bon début de soirée à tous sur France Culture.